Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
Mettre en condition, de mettre dans les meilleures dispositions un coureur pour qu'il atteigne son objectif et qu'il franchisse la ligne d'arrivée.
Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trail Story. Épisode de Trail Story dédié aux accompagnants de trailers et aux assistants de trailers, c'est-à-dire les hommes et les femmes de l'ombre.
Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir trois invités, deux femmes, donc Aline et Christine, qui sont des assistantes de course pour leur mari, et aussi Mathieu, quant à lui, assistant de course pour son pote Baptiste, avec qui il a suivi de nombreux trails. Donc c'est parti pour cet épisode, donc nous allons découvrir les coulisses des assistants de course, ces ravitailleurs de l'extrême.
Alors, bonjour Aline.
Bonjour Gaëtan.
Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et comment tu es venue un peu dans le monde du trail et à faire l'assistance en course? Et est-ce que tu es pratiquante de trail toi-même?
Alors, donc je m'appelle Aline, j'ai 40 ans, je suis femme de trailer, donc de Damien Cornuau, qui pratique le trail depuis, je ne sais pas trop, une bonne dizaine d'années en tout cas. Il m'a transmis sa passion, alors pas forcément pour le trail, mais en tout cas pour l'assistance. Et ça a commencé par, de mémoire, les Templiers. Chaque année, on va fin octobre aux Templiers et je fais son assistance.
Donc bonjour Christine.
Bonjour Gaëtan.
Alors, est-ce que tu peux nous dire globalement qui tu es et comment tu en es venue à faire l'assistance de Thierry sur les courses.
Alors, qui je suis? Christine Breuil, je n'ai pas grand-chose à voir dans le trail comme mon trailer de mari, on va dire, bien que je cours quand même un petit peu. Comment j'en suis arrivée à lui faire son assistance? Thierry est une rencontre dans ma vie, il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Donc, on avait tous les deux d'autres vies avant. On va dire, et on a eu un coup de foudre, on va simplement, et ça m'a mis un pied dans la course à pied. Et comme Thierry est rentré dans le trail, je suis rentrée en même temps que lui dans le trail. Voilà. Et comme il a commencé à performer, et qu'on a un petit peu observé tous les grands athlètes comme lui, comment ils faisaient, tout simplement, on s'est inspiré des autres, et on a vu que le ravitaillement était très, très important. Donc, automatiquement, au vu du niveau de Thierry et du mien, on a vite fait le choix et on a décidé que c'était moi qui allais faire le ravitaillement.
Donc, bonjour Mathieu. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, comment tu es venu à faire l'assistance de ton pote Baptiste et est-ce que tu es pratiquant de trail toi-même ou est-ce que tu as découvert la discipline à travers Baptiste?
Bonjour Gaëtan, tout d'abord. Moi, je suis du Loir-et-Cher. Voilà, je viens du milieu, non pas du trail, mais du milieu, on va dire, aquatique. Parce que j'étais poloiste, j'ai fait un peu plus de 20 ans de water polo au niveau national. Et je suis arrivé dans le trail par un ami, effectivement, qui s'appelle Baptiste, qui, lui, pratiquait avec moi le water polo, qui a pratiqué différents sports à un certain niveau et puis même à des niveaux extrêmes. Et il est arrivé, pour lui, et je pense naturellement, dans l'ultra-trail. Et puis, moi, je suis arrivé sur les trails par son intermédiaire où il m'a demandé un jour si je pouvais faire son assistance sur son premier ultra auquel il voulait participer. Et pour répondre à ta question, je ne suis pas du tout un coureur de trail, ni d'ultra-trail, ni je ne suis pas du tout un coureur du tout, tout simplement.
Est-ce que tu peux nous expliquer globalement, ça consiste en quoi faire l'assistance sur un trail?
L'assistance, c'est pour moi quelque chose d'assez global, parce que ça commence par la programmation du week-end trail avec la réservation de l'hébergement, la réservation du moyen de transport, Enfin, c'est plutôt toute la logistique avant le trail. Et ensuite, quand on est sur place, moi, j'interviens pas pour sa prépa d'avant-course, sauf pour ce qui est des sacs. Donc, il me prépare ses sacs. Il me dit à tel endroit, tu devras m'apporter tel sac. À tel endroit, tu devras me préparer tel sandwich. Voilà, les saucissons, les crèmes en blanc, les petits riolets et telle boisson, quoi. Il faut que ce soit carré parce que il faut que tout soit prêt au bon moment. Voilà, savoir où c'est. Moi, je sais que quand il arrive, j'ai déjà ouvert les sachets, les sandwichs, préparé les flasques. Elles sont déjà prêtes. Je sais ce que je dois mettre dedans. Il a juste à les prendre et repartir, en fait. Le but, c'est qu'il ait, lui, rien à s'occuper et n'avoir que sa course en tête, quoi.
Alors, l'assistance d'un athlète en course, c'est d'avoir déjà en amont tout préparé, tous les ravitaillements qu'il y a sur la course. Et surtout, quand il arrive, un athlète de haut niveau passe très, très peu de temps, il faut le savoir, sur un ravitaillement. Ça peut être 2 secondes. Donc, on attend des heures et des heures pour 2 secondes. Ce qui veut dire que quand l'athlète arrive, il faut absolument avoir tout prêt. C'est-à-dire les gourdes prêtes, les bâtons s'il y a besoin, changer le sac, les chaussures, enfin, tout ce qu'il faut. Il faut que ce soit prêt parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un ravitaillement express. Donc, le but est qu'il perde le moins de temps possible. Et j'ai le souvenir, effectivement, d'un Templier où sur un ravitaillement j'ai oublié les bâtons. Je crois que les personnes autour pourront en parler encore. J'ai d'autres ravitailleurs qui étaient autour. Je me souviens de Jean-Michel Fort-Vincent du team Salomon qui était là et qui m'en parle encore. Et là, ça a été la catastrophe, quoi. La catastrophe. Les bâtons.
Alors, ils étaient où ces bâtons?
Dans la voiture. Et oui, des fois, on a beau essayer de penser à tout, et ben des fois, on a des loupés aussi. Mais là, le problème, c'est que il était en tête avec Thomas à ce moment-là, et il attendait les bâtons absolument à ce ravitaillement-là, la Rock Sainte Marguerite, hein, je peux te le dire, hein, je l'ai en tête celui-là aussi. Et je les avais pas. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'on a quand même des coureurs où tout se joue, c'est psychologique. Et lui, le fait de pas avoir ces bâtons-là, mais ça l'a perturbé jusqu'au bout. Et il a pas gagné la course, quoi. C'est vrai que à ce niveau-là, les gens se rendent pas forcément compte, mais le moindre petit écart fait que on change la course. Et là, ça en était vraiment la preuve. Mais lui, ça l'a complètement effondré, quoi, sur cette course-là. Alors qu'il était en tête. Et je précise quand même que Thomas était en tête aussi, sans bâton, et qu'il a gagné.
Ok, donc l'efficacité qui prime sur tout le reste, quoi.
Exactement. Et maintenant, finalement, je le connais, et je sais que s'il passe vite sans dire un mot, c'est qu'il est bien. S'il commence à s'arrêter, à me dire quelque chose, je me dis « oui, ça va moins bien », et du coup, la course, elle va être différente. Donc finalement, voilà, maintenant, moi, j'en ai pris des repères de tout ça.
Ouais, donc il y a l'aspect télépathique un peu qui se passe entre vous, quoi.
Ouais, il n'y a pas besoin de parler par moment.
C'est qu'un ultra, on le prépare en amont avec le roadbook de l'ultra sur lequel on va. Nous, en général, la veille, une fois qu'on est à l'hôtel, on reprend notre carte et on définit les points de ravitaillement, les routes par lesquelles on va passer et où est-ce qu'on va se rejoindre. Donc, il y a toute cette préparation en amont sur tel ou tel ravito, qu'est-ce que l'on va faire. Est-ce qu'il va se changer? Est-ce qu'il va manger chaud? Est-ce qu'il va dormir? Bon, après, un ultra, ça se passe jamais comme forcément on l'a prévu. Parce que le milieu est changeant. Hein, donc, suivant la météo, suivant les conditions météorologiques, suivant l'état de fatigue du coureur. Donc, en fait, ça se passe pas forcément comme on avait prévu.
Alors, est-ce que tu as une idée un peu de combien tu as fait d'assistance de course depuis que tu accompagnes Damien dans ses trails? Tu as une idée en nombre? C'est gros?
C'est surtout sur les grosses courses, donc les Templiers, la Diag l'année dernière, peut-être une vingtaine.
Depuis que tu connais Thierry, tu as fait combien d'assistance de course?
Je vais te dire, vu le nombre de courses qu'a fait Thierry, J'ai dû en louper, allez, dans toutes ces courses, 3-4 max. Donc, pour te dire, je suis systématiquement là.
Donc, c'est plus d'une centaine, j'imagine, puisque oui. Le palmarès de Thierry, ça se compte en centaines de courses.
Oui.
Le premier Ultra Trail, c'était en 2014, c'était les 100 miles Sud de France. Et c'était la première édition des 100 miles Sud de France. Donc, c'était de rejoindre Font-Romeu à Argelès. Donc, on relie la montagne à la mer. Donc, ça, c'était le tout premier. Donc, d'ailleurs, quand il m'a demandé pour l'accompagner, moi, je ne connaissais pas du tout cette discipline. Et je m'étais dit, bon, OK, je viens, je ne sais pas à quoi je vais servir, mais OK, je veux bien venir. Ensuite, le deuxième ultra, donc il a été finisher, où il a terminé 42e. Pareil, où il a fallu gérer des hallucinations, des choses comme ça. Donc là, c'est un petit peu, au début, ça fait un peu peur. Et puis, bon, on s'habitue et puis on apprend à gérer ce genre de choses. Deuxième ultra, c'était l'Ultra Trail. Pareil, la première édition de le Grand Raid Qatar. Donc, c'est là où il a fallu gérer il a fait très froid, il a fallu gérer des hypothermies, une crise de tachycardie. Parce que pareil, hein, c'était le deuxième ultra. Donc, on fait des bêtises. Et donc, le coureur fait des bêtises aussi. Il teste un gel hyper caféiné alors qu'il ne l'a jamais testé à l'entraînement. Et puis, ça ne passe pas, en fait. Donc, après, c'est l'expérience qui fait que derrière, les ultras suivants sont déroulés de mieux en mieux. Donc, après le trail des Qatar en 2015, on a fait l'échappée belle sur le massif de Beldon. Il a pu terminer dans les 30 premiers, je crois c'était 32e, ouais. Quelque chose comme ça. Et l'objectif là était elle se déroulait en 2016 en même temps que l'UTMB. Et donc c'était d'aller chercher les points pour l'année suivante, 2017, UTMB, qui avait été annoncé comme l'ultra du siècle. Ah oui, là tout le monde était présent. Donc c'était un moment très fort. Hein, quand on est sur la grille de départ, que tout le monde se met à taper dans les mains, vous avez Kylian Jornet, vous avez François Daen, vous avez Jim Wesley, voilà, Xavier Thévenard, exactement, enfin tous ces grands ultra-trailers. Bon, on se dit, bon, là, on est dans la cour des grands. Un UTMB qui s'est plutôt très bien passé, puisque pour une première participation, il y a 2500 coureurs au départ, on termine sous les 200. Baptiste termine 194e. Voilà, donc top.
Donc pour les auditeurs, hein, quand même, c'est Baptiste Moncanu que tu accompagnes.
Et donc, comme à chaque fin d'ultra, c'est beaucoup d'émotions. Mais bon, le coureur, il a puisé jusqu'au fond de lui-même. Et à chaque fois, là, j'ai fait ça maintenant. Et puis, trois mois après, ça part sur des nouveaux projets. Et puis, le projet après UTMB, c'était le Tour des Géants. Là, j'ai dit, on passe dans une autre dimension quand même. Donc, il va vraiment falloir... au fur et à mesure, on va dire qu'on sait, même si on est des amateurs, on a professionnalisé notre façon d'aborder les courses.
Est-ce que c'est toi qui choisis les courses et les destinations en fonction de tes vacances, ou est-ce que c'est lui qui choisit, ou vous le faites à deux? Comment ça marche?
Non, c'est plutôt Damien qui me dit « Ah bah tiens, je ferais bien, je m'inscrirais bien à l'UTMB ». Donc le premier trail qu'il a fait, c'était la 6000D. Et à ce moment-là, je faisais pas du tout son ravitaillement. Et puis c'est arrivé petit à petit où il a augmenté les distances. Et du coup, il avait besoin de quelqu'un pour lui faire son assistance, quoi.
Est-ce qu'il y a des courses pour lesquelles tu n'as pas pu te rendre disponible, ou est-ce qu'il y a des courses où carrément vous avez dit celle-là, c'est pas la peine, je veux le gérer autrement?
Non, ça a été surtout ma disponibilité. Je pense la dernière où j'ai pas pu aller, à mon grand malheur, parce que j'aimais beaucoup y aller, c'est le Trail Côte d'Opale. C'est une course qui est très très loin de chez nous. Les disponibilités pour moi aussi, moi je travaille aussi à temps plein. Donc je prends toujours sur mes congés quand il faut que je suive Thierry sur un trail, et il y a eu des moments où j'ai pas pu, quoi, tout simplement par rapport à ça, et donc c'est, ouais. Je crois que le dernier c'est le Trail Côte d'Opale où j'ai pas été, et c'était le seul en plus, sinon je les avais toutes faites les versions.
Ok, donc les 8 victoires de Thierry, toi t'en as fait 7.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire, globalement, sur tous les trails que tu as accompagnés, quelle est ta plus grande émotion et sur quelle course, tu as le plus d'émotions partagées avec Damien ? C'est une course qui t'a marqué ?
Je pense que c'était les premiers Templiers. Je pense que c'était celle-là. Je me souviens, il m'a appelé, il était presque arrivé. Et il me dit, je me suis ouvert le crâne, je me suis pris une branche d'arbre, je me suis ouvert le crâne. Et là, je me suis dit, mince, je savais pas quoi faire, voilà. Et du coup, je pense que c'était, quand il est arrivé, c'était la plus grosse émotion pour moi. Bah, tu vois, d'ailleurs, ça revient.
Quelle est ta plus grande émotion partagée avec Baptiste ? Globalement, là où tu as le plus vibré, c'était quand ?
Ah, c'est difficile. Et tous les ultras sont passionnants. On partage plein de choses. Maintenant, voilà, si je dois parler d'un ultra, c'est le summum de ce qu'on a pu atteindre, c'est le Tour des Géants. Le Tour des Géants qui est une course mythique qui est mondialement connue, avec 900 coureurs au départ, 340 km et plus de presque 25 000 mètres, presque 30 000 mètres de dénivelé positif. C'est un ultra. On est vraiment tous les ultras, on est dans l'extrême, mais là on est parti pour quasiment une semaine de course, quoi. Avec le peu de sommeil que l'on a, moi avec Christophe, avec qui j'ai fait cette assistance, on a dormi pareil sur une semaine moins de 10 heures. Donc ce qui nous tient, c'est les nerfs, et donc forcément quand on boucle une aventure comme celle-ci, ça fait ressortir plein de choses. Là, faut le vivre pour ressentir ces choses-là.
Je vais vous expliquer tout de suite. Mathis est en train de boucler les 340 km. Je vous parle maintenant parce que je suis pas sûr de pouvoir vous parler après. Donc Baptiste est en train de boucler les 340 km du défi, 100%. Après à peu près, je sais pas, on doit être à 120 heures à peu près de course, 6 jours, à peine 6 jours finalement. Je préfère vous dire tout ça maintenant parce que c'est assez intense. Ça fait maintenant à peu près un an qu'on prépare la course. Donc beaucoup de sacrifices pour lui. Beaucoup de démarches pour faire ce défi au profit de la Ligue contre le cancer. Voilà. J'en mets pas trop, ça y est, le voilà. Il arrive. Voilà Baptiste qui trottine. Ça y est. Il a le sourire. Super. C'est génial.
Un beau t-shirt.
Voilà.
Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de sueur sur ton t-shirt.
Ça va Baptiste?
Oui, les amis.
Super.
Et on n'est pas arrivé là.
Voilà, j'arrivais.
Grâce mille.
Voilà, c'est l'arrivée en live. 340 km,
le soleil.
Plus de 24 000 mètres de dénivelé. Il fait beau. Il arrive le jour, c'est la première fois pour nous qu'on arrive en pleine journée au lieu de la nuit.
Voilà. Hein, c'est mieux pour vous.
C'est mieux pour vous.
Hein, là, une petite pensée pour ceux qui luttent contre la maladie. Et dans ce défi. Ça nous apprend l'humilité. Grazie.
Voilà, tous les gens vont encourager là.
Grazie.
Voilà. Voilà l'arrivée du Tour, voilà ce que c'est. Baptiste qui partage avec le public. Pour le moment, je ne sais pas trop s'il a réalisé ce qu'il est en train de faire. Incroyable. Voilà, ça y est, on voit l'arche. L'arche est là.
Allez,
allez. Allez, ça y est, on va passer l'arrivée. Les bénévoles sur le temps ont été géniaux.
Notre ami, le français qui termine.
Ah, c'est génial.
Alors, Baptiste, tu termines à la 126e place.
126e, Baptiste est 126e.
Voilà. Nous sommes à minimum 20 minutes.
Mon Dieu, que c'est incroyable.
Donc, 119h40 pour le français qui termine, monsieur Baptiste Blancanu.
Voilà, 119h40.
Quelle est ta plus grande émotion pendant une course trail en tant qu'assistante? Est-ce que tu as gardé en tête une émotion particulière dans une course que tu as vécue avec Thierry?
Alors, toutes les courses, on a quand même beaucoup d'émotions, à savoir qu'on fait l'assistance, mais on vit de la même manière que le coureur la course, c'est-à-dire le stress. Enfin, on a tout. On est vraiment dans la peau du coureur sans être vraiment coureur. La plus belle, c'est les Templiers, la victoire aux Templiers.
En 2009, c'est ça ?
Exactement. Et celle-là, c'est la. Oui, voilà. Ça faisait trois fois qu'il le faisait. Donc, du coup, d'une année sur l'autre, tu deviens une experte du parcours. Tu sais à peu près où te rendre, les routes qu'il faut prendre. Tu connais le timing parce que ça, c'est très important. Parce que nous, finalement, on se rend d'un point à l'autre. C'est dangereux pour nous, des fois en voiture. Et puis, on est aussi limité parce qu'on a des athlètes qui courent vite. Et on a des points de ravitaillement qui sont assez éloignés les uns des autres. Donc, on est des fois limite à prendre des risques pour être à temps au ravitaillement. Donc, voilà, celui-là, je connaissais déjà un petit peu. C'était plus facile. Et tout se déroulait plutôt très, très bien sur les ravitaillements. Donc, on sentait bien… quand on fait le dernier ravitaillement, que tout est bien, qu'on voit que lui, il est en pleine forme, enfin, qu'il sent que la victoire est là… Nous, derrière, on se dit, allez, il roule jusqu'à l'arrivée et ça va le faire, quoi. C'est un bonheur partagé parce que finalement, cette course, on l'a fait à deux.
Ouais, c'est exactement la question que j'allais poser juste derrière, en disant finalement, les victoires et les podiums de Thierry, c'est un peu aussi tes victoires à chaque fois. Hein.
C'est que tout s'est bien passé. Donc effectivement, les podiums sont aussi mes victoires quelque part. C'est que j'ai tout réussi.
Le trail, tu m'as dit que tu avais aussi fait pas mal de voyages. Donc, quel est ton plus beau voyage trail ou ta plus belle aventure d'assistance trail?
Je pense que c'est évidemment l'année dernière sur la Diagonale des Fous. C'était déjà de par l'ambiance de la course, le départ, c'était génial à vivre en fait. Et puis… sur la Diag, donc j'ai pu l'assister à certains endroits, pas beaucoup parce que dans ma FAT on peut pas assister. Je suis allée le ravitailler à Sillaos et du coup on découvre des paysages magnifiques. C'était hyper beau. C'était la première fois que je le voyais depuis le départ, donc il avait déjà parcouru 65 kilomètres, ouais, à peu près. Donc là, c'était chouette de le voir. Il est resté un petit moment. Alors, en général, Damien, sur les ravitaillements, il passe très, très, très peu de temps. En gros, je lui donne son sac et puis il repart tout de suite, voire même, des fois, il s'arrête même pas. Donc c'est très sympa pour moi. Voilà.
Alors, tu as une frustration parce que toi, tu attends des heures et lui, il passe 5 minutes, c'est ça?
Ah, mais 5 minutes, c'est beaucoup. Alors, évidemment, pour la Diagonale des Fous, il a passé un petit peu plus de temps. À Sillaos. Alors après Sillaos, je crois que je suis allée le voir deux fois. J'ai dû le voir deux ou trois fois. Je pense que je lui ai rien amené parce qu'il avait il avait géré. Et je me souviens même, on est allé le voir de nuit. Donc j'étais accompagnée de son frère José. J'avais parcouru je ne sais combien de kilomètres à pied dans la nuit à la frontale. On marchait sur de la lave, je me souviens, des conditions hyper sympas, il faisait froid. Et là, il passe devant nous et il ne s'arrête même pas. Donc voilà, encore un petit moment de frustration, mais j'étais contente de le voir. J'étais contente de voir qu'il était en forme et que ça allait. Et voilà.
Les médailles de Damien, si on peut le dire, elles sont un peu à toi aussi, ces médailles. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah ouais, moi je trouve. Hein. Je participe quand même pas mal. Hein. Sans assistance, on va peut-être pas jusqu'au bout. Hein.
À Madère, c'est vraiment c'est assez magnifique. On est retourné parce que forcément quand on fait un ultra comme ça, on était parti une semaine. Alors là, on était parti avec la famille, donc on était parti une semaine et on a pu retourner sur une portion de la course là sur les où on est vraiment sur la crête sur la montagne. C'est assez impressionnant parce que là on se dit si on passe en pleine nuit, faut pas se louper quand même. Hein. Mais donc les paysages sont magnifiques à Madère. Mais globalement, lorsqu'on est, que ce soit dans les Pyrénées, dans les Alpes, c'est magnifique. On voit des, voilà, on voit des paysages.
Ok. Alors, tu parlais souvent avec le « on » hein, sur la partie finisher. Donc, finalement, les médailles de finisher de Baptiste, c'est un peu les tiennes aussi.
Oui. Alors, souvent, il me les offre. Souvent, il me laisse ses médailles ou son dossard. Oui, c'est Baptiste, c'est le coureur. Mais effectivement, on a décidé de faire des ultras, on va dire, en équipe. Alors, il n'y a pas de relais, hein, parce qu'il fait la course tout seul. Mais c'est un petit peu, je compare ça un petit peu avec les 24 heures du Mans. Voilà, aujourd'hui, ça se gagne aussi dans les stands, une course. Et puis, les pilotes ont besoin de se concentrer sur leur course. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se concentrer sur la mécanique et sur... voilà, ce n'est pas eux qui vont changer les pneus. Bon, là, c'est la même chose. Là, sur un ultra, nous, on a décidé de travailler en équipe. Et donc, oui, forcément, c'est aussi mes victoires, nos victoires, lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée. Chacun a son rôle.
En tout cas, c'est une superbe histoire d'amitié partagée, de passion commune. Donc, c'est vraiment chouette à entendre.
Tu as fait beaucoup, tu as suivi beaucoup de trails, hein, beaucoup de trails avec Thierry. Et donc, est-ce que tu as le souvenir d'un de tes plus beaux voyages trail ? Est-ce que tu as en tête un voyage qui t'a marqué sur un trail où tu t'es dit waouh, ça c'est magnifique et j'aimerais le revivre ?
Ah, oui, le Grand Raid de la Réunion. Le Grand Raid de la Réunion, c'était juste fantastique. Fantastique pour vous, coureurs, qui l'avez fait. Je sais que tu l'as fait aussi, Gaëtan. Mais c'était aussi fantastique pour nous, suiveurs, même s'il y a eu des endroits où on n'a pas pu se rendre. Parce que la Réunion, c'est quand même un parcours très particulier. Et effectivement, quand vous êtes dans Mafat, il n'y a aucun point où on peut aller. Mais c'était magique. C'est une course qui est magique. Magique pour tout le monde, finalement. Ouais. Moi, j'ai adoré. Et j'ai hâte d'y retourner. On jouait pas la gagne, mais il y avait quelque chose d'autre, finalement, qui était très fort. Déjà, le partage qu'il avait avec son frère. Et cette aventure, finalement, c'est une aventure humaine sur tous les points. Et les paysages, l'ambiance du départ, c'était fantastique. Je crois qu'il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Et il y a plein de choses qui font que c'est un trail magique et un petit peu à part. Et on ne parle même pas de victoire dans ces cas-là.
Un grand merci aujourd'hui à Christine Breuil, Aline Cornuau et Mathieu Prouveau pour leur témoignage dans ce Trail Story. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute.
You wanna know how to make me smile.